Hier, on a parlé de la grâce, que Dieu nous offre sa grâce et parfois qu'on n'en veut pas, qu'on s'en méfie pour toutes sortes de raisons, ou parce qu'on croit qu'on doit la mériter et donc qu'on ne la mérite pas. Je vous proposais aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, sur un des nombreux textes où Jésus se plaint des pharisiens. Il se plaint des pharisiens parce que non seulement ils refusent la grâce, mais qu'ils, quelque part, empêchent les autres de la recevoir. C'est un peu des adversaires de la grâce. Ils n'aiment pas l'idée d'une grâce de Dieu. Et dans le passage qu'on va lire, je pense, Jésus présente un peu les fruits du légalisme. Qu'est-ce qui se passe quand on est légaliste ? Le légalisme, on va dire si on peut résumer ainsi, ça veut dire, on est légaliste quand on croit qu'on va obtenir les faveurs de Dieu ou les faveurs des hommes par nos efforts. C'est ça le légalisme. Croire qu'on obtient les faveurs de Dieu par nos efforts ou croire qu'on obtient les faveurs des hommes par nos efforts. Mais avant d'attaquer ce texte proprement dit, je voulais quand même dire quelques mots de témoignage, comme ça vous saurez pourquoi le thème de la grâce m'interpelle autant, parce que je pense que je suis un légaliste qui se soigne, si on ose dire ça comme ça. J'étais légaliste avant d'être chrétien, donc évidemment quand je suis devenu chrétien, je suis devenu légaliste, et c'était pas très difficile, très facile de sortir de ça. Je viens d'une famille avec un père qui se disait cool. Je pense que mon père se voit comme ça, quelqu'un d'assez cool, alors qu'en réalité c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Exigeant avec lui-même, donc exigeant aussi envers tous les autres autour de lui. Je pense que pour mon père, ce n'est jamais assez bien. À ses yeux, rien n'est jamais assez bien. On habitait dans une vieille baraque, mes parents ont racheté un ancien hôtel de diligence, une immense baraque à moitié en ruine. Et autant que je m'en souvienne, on était toujours en chantier, je pense que la maison est toujours en chantier aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui m'a marqué en tant que gamin, par exemple, c'est un souvenir parmi d'autres, il y avait beaucoup d'entreprises qui intervenaient dans cette maison, et mon père avait toujours quelque chose à redire sur le travail de ces entreprises. Il y avait toujours quelque chose de pas bien. Il me disait, tu vois Olivier, là, tu vois, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Il se trouvait que moi, j'aidais beaucoup mon père à rénover aussi cette maison, et je voyais très bien la différence entre mon travail et celui des entreprises. Et même si mon père ne m'a jamais vraiment fait de reproches sur le modeste travail qu'on faisait, je comparais et je comprenais bien ce que mon père pensait de ce que je faisais. Vous voyez, je dis. Le regard de mon père, c'est jamais assez bien. Et je pense qu'une des caractéristiques de mon père, c'est qu'il terminait pratiquement jamais rien. Ça fait partie de c'est jamais assez bien. Quand on a terminé, on évalue. Qu'il vaut mieux juste s'arrêter avant de terminer. Je sais bien que je suis fait du même bois que mon père, et c'est pour moi un grand sujet de frustration. Je vois bien quelque part que mes enfants ne poussent pas bien droit, et mes disciples pas non plus, parce que quelque part, ils sentent bien en moi qu'il y a toujours, quelque part en moi, c'est jamais assez bien. J'ai de la peine à me réjouir de ce que font les autres. Alors, je ne vais pas toujours leur dire que je ne me réjouis pas, mais ils voient bien que je ne me réjouis pas forcément, parce que, ben voilà, je sais d'où je viens et j'ai de la peine à m'en libérer. J'ai incorporé ça en moi. Pour être quelqu'un de bien, il faut faire les choses parfaites. Et quelque part, je suis devenu un peu prisonnier de l'obligation de réussir ou d'être conforme à ce que les autres attendaient de moi. Et comme vous le savez, ce que les autres attendent de nous, c'est toujours une barre trop haute quelque part. Surtout que les uns et les autres n'attendent pas forcément la même chose que nous, Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut plaire aux attentes des autres ? Il faut que je parle plus fort, merci. Qu'est-ce qu'on fait quand il faut plaire aux attentes des autres ? Ben, y a une méthode relativement simple, c'est faire semblant. Quand on pense qu'on n'est pas suffisamment bien, on peut faire semblant. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu une grande partie de ma vie, surtout jusqu'après la conversion, mais après un bon bout de temps après aussi. On va faire semblant d'être quelqu'un de bien, ce qui est très embêtant. Parce que quand on fait semblant, on n'est justement pas quelqu'un de bien, vous voyez, quand on triche. C'est toujours embêtant, hein. J'ai longtemps vécu dans cette peur que les gens découvrent que je n'étais pas celui que je voulais faire semblant d'être. La pensée omniprésente dans ma vie a été « Qu'est-ce qui va arriver si mes amis apprennent qui je suis vraiment ?» Et pour, si possible, qu'ils ne voient pas qui je suis vraiment, évidemment, il s'agissait de bien montrer, de faire des actions bien visibles. Vous voyez, des bonnes actions bien visibles, comme ça, ça cache ce qui est derrière. Vous voyez un peu la logique de ma vie. Alors quand je me suis converti, ça a d'abord été une grande libération, parce que j'ai compris que Jésus m'aimait comme j'étais, que j'avais vraiment rien à démontrer, voilà, que c'était comme ça, j'étais bien pour Dieu. J'avais rien à démontrer pour que Dieu m'aime plus. Et puis petit à petit, ça a glissé. Ça, c'était le début de ma vie chrétienne où c'était simplement libérateur. Puis ça a commencé à glisser parce que quelque part dans ma tête, il y avait cette pensée, si mon père est tellement exigeant, Dieu doit être encore plus exigeant. Et donc je suis devenu légaliste, simplement les exigences, ploup, sont montées d'un cran. Vous voyez, par exemple, au début de ma vie chrétienne, je me suis converti au lycée. Hein. Je ne viens pas d'une église évangélique. Hein. Et d'une famille qui n'allait d'ailleurs pas du tout à l'église. Hein. Mais la première chose que Dieu m'a donnée, à part cette conviction que j'étais aimé, c'était, il m'a donné une passion pour la Bible. Je pense que j'ai lu la Bible en entier en 6 mois ou quelque chose comme ça. Ça va, parce que Dieu m'a donné une passion pour la Bible. Et au début, c'était juste génial. Je découvrais que Dieu m'aimait dans la Bible, quoi. Et petit à petit, c'est devenu très pesant. Et lire ma Bible est devenu de plus en plus difficile parce que j'avais un peu cette vision d'un Dieu qui est là, vous voyez, les poings sur les hanches, et qui va trouver les points qui ne marchent pas dans ma vie. Et donc, lire la Bible, c'était qu'est-ce que je vais découvrir que je ne fais pas bien encore, vous voyez. Et là, ça a été commencé à devenir beaucoup plus difficile de lire ma Bible. Et il m'a fallu pas mal d'années ensuite pour découvrir que finalement, dans la Bible, il y a beaucoup plus d'encouragement que de reproches. Apprendre à croire dans la grâce de Dieu, apprendre à croire que Dieu nous aime, qui nous accueille là où on en est, tel que je suis, hein, sans rien à moi. Dieu nous accueille tel que nous sommes. Le seul critère, c'est accepter l'amour de Dieu. Et pendant toute une partie de ma vie, j'ai tenté de me soigner, ça m'a fait du bien, hein, d'ailleurs. C'est de commencer tous les matins en disant au Seigneur, écoute Seigneur, je sais que je fais énormément de bêtises parce que j'aimerais plaire aux gens. Et j'aimerais que tu me redonnes ce matin cette conviction, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Quelque part je le sais, mais j'arrive pas à le vivre. Alors il faut que tu me donnes d'avoir cette conviction pour pas faire trop de bêtises dans la journée, quoi. C'était mon sujet de prière pendant au moins une année. Commencer tous mes matins comme ça. Donc dans le texte d'aujourd'hui, on est dans l'évangile de Matthieu, parce que avant d'œuvre, j'ai fait toute une série, j'ai prêché sur tout l'évangile de Matthieu en quelques années. Et Matthieu parle des conséquences de ne pas vivre dans la grâce de Dieu. Lorsque je suis toujours essayé de me justifier, de justifier à moi-même que je suis quelqu'un de bien, ou de montrer aux autres que je suis quelqu'un de bien, il y a des fruits très amers dans nos vies. Je pense que vous en connaissez quelques-uns déjà. Et je pense qu'on reconnaît beaucoup dans le comportement des pharisiens, qui sont, je pense, un peu le modèle des gens qui vivent dans le légalisme. Et j'aimerais, si j'ai fait cette introduction, c'est pour qu'on se souvienne bien. Le problème du comportement des pharisiens, ce n'est pas tellement leur comportement. Le problème, c'est leur vision qu'ils ont derrière. Leur vision légaliste des choses. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut changer. Parce que quand on est dans une vision légaliste, dès le moment où on nous montre quelque chose qui ne va pas, on se dit « je dois faire encore plus d'efforts ». Et ce n'est pas ça le problème. Il s'agit de changer ce qui est derrière. Comprenez ? C'est pour ça qu'il me semblait important de rappeler ça. Le problème des pharisiens, ce n'est pas qu'ils ne font pas assez d'efforts, ils en font beaucoup. Le problème, ce n'est pas qu'ils font des efforts à la mauvaise place. Le problème, c'est qu'ils sont des légalistes, qui pensent que c'est en faisant des choses bien qu'on sera accepté par Dieu. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, et on va lire un long passage, en fait tout le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les interprètes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres ou rabbis. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Malheur à vous, interprètes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'autres d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, interprètes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Malheur à vous, interprètes de la loi et pharisiens hypocrites, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion, et quand vous l'avez gagné, vous en faites un fils de l'enfer, deux fois pire que vous. Malheur à vous, guide aveugle. En effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment, mais s'il juge par l'or du temple, il doit tenir son serment. Insensé et aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Ou bien vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment, mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? En effet, celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, interprètes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guide aveugle que vous êtes, vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron et vous avalez le chameau tout entier. Malheur à vous, interprètes de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais à l'intérieur, elles sont remplies du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisien aveugle, commence donc par nettoyer l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur se nettoiera lui-même. Malheur à vous, interprète de la loi et pharisien hypocrite, vous êtes comme ces tombeaux bien crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que cossement de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Malheur à vous, interprète de la loi et pharisiens hypocrites. Vous édifiez de somptueux tombeaux aux prophètes, vous couvrez d'ornements ceux des justes. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous ne serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-le à son comble. Serpent, race de vipère, Comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer ? En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des interprètes de l'Écriture. Vous allez tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre, pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents, depuis celui d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. Oui, vraiment, je vous l'assure, le châtiment mérité pour tous ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ». Voilà, un très long texte de la parole de Dieu. Alors, c'est toujours pénible d'entendre quelqu'un lire un très long passage, mais je pensais important de lire tout le passage. Ça permet de voir les différentes articulations de ce passage. Alors, on ne pourra bien sûr pas commenter tout ce qu'il y a là, même si ça mériterait peut-être. Le premier... Première expression qui est dite sur les pharisiens et que vous avez sans doute remarqué, c'est le terme « malheur ». Malheur. Malheur à vous. Quand on lit qui sont les pharisiens et ce qu'ils font, on aurait tendance à penser « ces hommes sont vraiment des malédictions pour les autres ». Vous voyez que ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit « les pharisiens se plongent eux-mêmes dans le malheur par leur manière de penser et d'agir ». Ouais, c'est malheur aux pharisiens. Je pense que quand on entre dans une pensée légaliste, on entre de manière assez automatique dans un esprit de revendication et d'amertume. Je pense que c'est ce que le texte montre ici. Et je pense qu'on connaît bien ça, hein, toutes les paroles du genre « je fais tellement de choses bien, je devrais être heureux » ou « pourquoi la maladie me frappe-t-elle, je ne le mérite pas ». Vous voyez ces pensées-là? On revendique. Je fais bien, donc je devrais. Et puis, il y a évidemment aussi un poids d'amertume, parce que quand on vit sous une espèce de chape de « il faut, il faudrait, il aurait fallu », ça devient tellement lourd à porter que, évidemment, souvent, on devient amer. Et puis surtout, on cherche un responsable à nos malheurs. Si moi, j'ai fait tout bien et que je ne suis pas heureux, on ne va pas dire « c'est parce que je me mets un poids de... hein ». On va dire « c'est bien la faute de quelqu'un ». N'est-ce pas ? Moi, j'ai fait tout ce qu'il faut faire pour être heureux. Qui est donc le responsable? Et on va se mettre à chercher un responsable. Et Jésus met ici les points sur les i. Les pharisiens sont foncièrement malheureux et ils le sont à cause d'eux-mêmes. Ils le sont à cause d'eux-mêmes parce qu'ils refusent la grâce gratuite de Dieu. Ouais, c'est eux qui, s'ils sont malheureux, c'est à cause d'eux. Il ne s'agit pas de chercher un responsable ailleurs. Les pharisiens pensent qu'ils sont malheureux à cause des autres et non pas à cause de leur propre péché. Je pense que c'est assez typique. Ouais, en tout cas dans nos banlieues, on a toute une série de personnes qui disent « si j'ai des mauvaises pensées, c'est parce que les filles s'habillent mal ». Ouais. Non, s'ils ont des mauvaises pensées, c'est qu'ils sont pécheurs. Mais c'est facile de dire « si j'ai un problème, c'est toujours la faute des autres ». Je pense que la dureté de cœur est un sport national en France, hein, je pense qu'on le voit très bien, de la manière dont on traite Dieu. On traite facilement Dieu, ou nos contemporains le traitent, je ne pense pas à nous en tant que chrétiens, enfin, pas trop. On traite Dieu de manière utilitaire. Hein. Quand on évangélise, les gens nous disent « qu'est-ce que ça m'apporterait de devenir chrétien ?» Vous voyez, c'est vraiment une pensée de pharisien, on est centré sur soi, sur ce que ça peut m'apporter à moi. Et on parle en termes de profit personnel, ou de frustration, ou de responsabilité, voilà, pas en termes d'une relation d'amour avec Dieu. Je pense que l'un des grands malheurs de notre France, c'est qu'on traite Dieu sur un mode utilitaire. Il faut que Dieu, ça me rapporte. Il ne faut pas que j'ai trop à investir pour Dieu, mais il faut que ça me rapporte. Qu'est-ce que ça me rapporterait? Ou pourquoi Dieu n'agit pas plus pour me rendre heureux? Et on n'est pas du tout dans une logique d'amour, on est dans une logique utilitaire. Et de manière évidemment évidente, quand on traite Dieu de manière utilitaire, on commence à traiter aussi les autres de manière utilitaire. On traite Dieu de manière utilitaire et à côté on fait des bonnes actions pour l'apparence. Ça c'est assez typique de notre France. Dans la logique légaliste, on pense en termes de « je dois faire pour avoir ». Et ça nous rend malheureux. Alors on peut vouloir des biens matériels, mais généralement on convoite plutôt des biens, on va dire, immatériels. L'approbation des gens, l'honneur, la sécurité, le bonheur, le bien-être. Ça qu'on convoite, hein. J'avais posé à un des groupes la question, les choses les plus importantes de ta vie, est-ce que ça dépend de toi ? Et toutes ces choses, l'approbation, l'honneur, ça dépend pas de moi, justement. Ça dépend de la grâce des autres. Mais dans la pensée légaliste, nous convoitons ces choses-là et on pense voilà, qu'il faut les acheter quelque part par nos efforts. On sait très bien que la course à toujours plus et à toujours faire bien va nous rendre malheureux. Je pense qu'on le voit quand on reçoit un nouveau jouet, hein, ou un nouveau téléphone portable pour les hommes, hein. Au début, waouh, c'est génial, mais alors ça dure vraiment peu de temps. Au bout d'un mois ou deux, c'est vraiment cet appareil, il a plein de défauts, sa batterie, ça marche pas, et puis il y a plein de trucs que je voudrais faire que je peux pas. Vous voyez, on sait très bien que posséder les choses, ça marche quelques minutes, puis après, c'est tout. C'est pas ça qui va nous rendre heureux. On le sait, et on n'arrive pas à changer pourtant ce qui est derrière. C'est en possédant des choses matérielles ou pas qu'on va être heureux. Être dans cette idée... Je dois gagner l'approbation des gens par mes efforts, nous rend foncièrement malheureux. C'est le premier point à dire sur les pharisiens. Le deuxième point que Jésus doit, comme disent nos amis africains, pointe du doigt chez les pharisiens, ils disent une chose mais ils font autre chose. Ils enseignent bien, mais ils n'obéissent pas eux-mêmes à leur propre enseignement. Vous connaissez peut-être cette petite histoire de Gandhi. Il y a une dame qui est allée voir Gandhi avec son fils et qui a dit « Atma, dis à mon fils de manger moins de sucre, il passe son temps à manger des sucreries, dis-lui d'arrêter de manger du sucre. » Alors Gandhi lui a dit « Bon, revenez la semaine prochaine. » La maman n'était pas très contente, elle habitait à plusieurs heures de marche, bon, elle est rentrée chez elle, une semaine plus tard, elle revient, Gandhi regarde le garçon et lui dit « Ne mange plus de sucre. » Puis la maman lui dit « Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit ça la semaine passée ?» Puis Gandhi dit « Bah la semaine passée, je mangeais encore du sucre. » Je vois, intéressant, hein. Jésus utilise plusieurs images pour parler des pharisiens qui disent une chose mais font autre chose. D'abord, il y a l'image de la coupe. La coupe qui est lavée dedans, qui est lavée dehors, mais qui n'est pas lavée dedans. On croit boire donc quelque chose de sain et on s'empoisonne. J'ai eu le privilège d'aller plusieurs fois au Bénin. Au Bénin, la plupart des villages ont des très bonnes pompes avec une eau tout à fait saine et de qualité. Le problème, c'est qu'ils la transportent dans un bidon qui n'a pas été lavé. Du coup, il vaut mieux pas boire, quoi. Vous voyez ? Est-ce que je soigne mon intérieur ou est-ce que je soigne l'extérieur ? Et ce que dit ici Jésus, c'est qu'il faut que je soigne mon intérieur si je ne veux pas empoisonner la vie des autres. L'autre image... peut-être continuer avec cette image de la coupe, on le voit dans d'autres passages... La pensée des pharisiens, c'est qu'ils sont bien, eux sont propres, et ils ont peur d'être salis par les autres. Évidemment, ce n'est pas la bonne logique, hein. Il s'agit d'abord de dire, est-ce que moi, je vais apporter des bonnes choses aux autres ? Est-ce que moi, je ne vais pas les empoisonner ? Et non pas la logique, les autres risquent de me contaminer. Ouais. Jésus les traite d'hypocrites, alors hypocrite, ça a pris un sens très négatif en français. À l'époque grecque, hypocrite, c'est un mot technique pour parler des acteurs qui jouent masqués. Vous voyez ? Un acteur qui joue quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait positif dans la manière dont Jésus le dit. Hein, mais... Jésus dit aussi qu'il lie des fardeaux sur les gens, mais qu'eux ne les déplacent pas. Et qu'à force de lier des fardeaux sur les gens, il dégoûte les gens de la foi. Hein, il ferme les portes du royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Hein. Leur manière de vivre, leur manière de parler aux gens... empêche quelque part les gens de s'approcher de Dieu. Ouais. Avec ce paradoxe qui est malheureusement connu, même dans nos mondes évangéliques, hein, on se donne énormément de peine pour évangéliser, mais après on met tellement de règles et de barrières que les gens ne peuvent pas entrer dans l'église. Je vais dire ça comme ça. La barre est parfois tellement haute pour être admis comme un chrétien présentable que les gens ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Je me rappelle une discussion dans une pastorale où un collègue m'expliquait tous les critères pour que quelqu'un puisse collaborer avec lui. On parlait de collaboration entre églises sur des projets. Hein. Donc lui, son critère, c'est on discute avec l'autre pasteur de la doctrine du salut dans tous les moindres détails. Si je ne suis pas d'accord sur tous les moindres détails de la doctrine de salut, nous ne pouvons pas collaborer. Moi, je dis, sans doute les trois quarts des gens dans mon église ne pourraient pas collaborer avec eux. Ou un autre point qui date de l'histoire, vous savez qu'au XVIIe siècle, les églises hollandaises, évangéliques hollandaises, ont fait et luthériennes aussi, ou calvinistes, ont fait un très très gros travail d'évangélisation en Asie. Formidable hein, d'ailleurs, hein. Beaucoup d'églises d'aujourd'hui en Asie. L'Asie est bien sûr le continent où il y a le plus de chrétiens. Hein. Il y a plus de missionnaires coréens que de missionnaires américains dans le monde aujourd'hui. Hein. Mais les missionnaires hollandais avaient un principe, c'est que pour être baptisé, il fallait pouvoir réciter par cœur le Notre Père et le Credo. C'est bien, hein. Le problème, c'est qu'il fallait le réciter en hollandais et qu'ils évangélisaient à Sumatra. Bon, Jésus a accueilli des gens peu recommandables. Il a seulement demandé qu'ils reconnaissent leurs péchés et leurs besoins de la grâce de Dieu. Les pharisiens, eux, rajoutent toute une série d'autres choses pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Une manière de dire qu'on ne fait pas suffisamment confiance dans l'action de Dieu, dans la vie des gens. Jésus dit encore que les pharisiens aiment être bien vus par les gens. Ils aiment les titres. Ils aiment passer pour des gens bien aux yeux de la société. Je pense que ça, on connaît bien. Hein. Quel président n'a pas fait son musée? Quel maire n'a pas fait son giratoire en marbre? Hein. Bon, je pense qu'un des points positifs de la France, c'est que être chrétien, c'est pas être bien vu. Donc on est un peu préservé de l'idée d'être chrétien pour être bien vu. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, mais par contre, on peut le faire dans l'Église. Hein. On peut se soucier beaucoup de passer pour un bon croyant dans notre communauté, plutôt que se soucier de grandir dans la foi. On peut aussi, parfois, en tant que chrétien, tomber dans la tentation de vouloir passer pour des gens bien aux yeux de nos voisins ou de nos collègues ou de nos amis. Et on dit après, c'est pour rendre un bon témoignage. Ouais, le problème, c'est que c'est souvent pas pour rendre un bon témoignage. C'est parce que nous avons soif de l'approbation des autres. En tout cas, moi, je sais que c'est une tentation contre laquelle je dois toujours être au clair. Le remède, c'est toujours évidemment être sûr de l'amour de Dieu. Être sûr que Dieu nous tient dans une très grande estime. Alors, j'ai plus besoin d'aller pêcher l'approbation des autres. C'est tellement moins important que l'approbation de Dieu sur notre vie. Alors, bien sûr, il y a des choses à changer dans notre vie. Ça, c'est pas évidemment, c'est une évidence, hein. Mais le point de départ, je sais que Dieu m'aime, m'apprécie, voilà. Et quand je ne crois pas à ce regard-là de Dieu sur moi, comme je l'ai dit, on fait très vite, passablement de bêtises pour essayer de pêcher l'approbation des autres. Il y a un verset du Cantique des Cantiques bien connu, hein, on le cite presque à tous les mariages, « Même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour ». Le verset suivant dit « Personne ne peut acheter l'amour ». Celui qui voudrait acheter l'amour se couvrirait de mépris. La recherche de l'approbation des autres par nos propres œuvres est considérée dans la Bible comme une forme d'orgueil. Je crois que je peux gagner par mes mérites ou par la ruse. Je crois que je pourrais par l'habileté être honoré et approuvé sans devoir finalement changer de vie. Jésus a cette image encore très forte d'un tombeau qui est très bien peint à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est mort, c'est sale et c'est pourri. Fort, hein, comme image, quand même. Un autre point de la vision des pharisiens, c'est qu'ils soignent les détails, mais qu'ils oublient l'essentiel. Ça, je pense qu'on le connaît bien aussi dans nos cœurs. Quelle pression on peut se mettre, parfois, sur des détails, au risque de passer notre temps là-dessus et de rater l'essentiel. Par exemple, passer du temps avec son conjoint ou avec ses enfants, ou prendre du temps pour prier. Qu'est-ce qu'on prend du temps pour des détails? Et Jésus a ici une image très forte, c'est filtrer la mouche et avaler le chameau. Ailleurs, Jésus parle de l'histoire de paille et de poutre. Hein. Moi, j'aime bien l'histoire du chameau. En français, on avale des couleuvres, mais je trouve que c'est mieux. L'histoire d'avaler un chameau par inadvertance, ça, j'aime bien. Les pharisiens, comme les jésuites à l'époque de Blaise Pascal, par exemple, hein, on arrive à faire une très grande casuistique, des trucs extrêmement compliqués, quelque part pour justifier leur travers. C'est ce que Jésus raconte ici. Hein. Ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont des gens bien. Et on peut se prouver à soi-même qu'on a fait bien sur des détails. C'est beaucoup plus difficile sur des choses essentielles. Là, Jésus le résume en disant « la justice, la bonté et la foi ». Ça, c'est pas vraiment mesurable, voyez ? C'est plus un chemin avec Dieu. Par contre, sur « j'ai donné la dîme sur la menthe », ça, c'est mesurable. Voyez ? Et donc, ils vont faire là toute une casuistique pour justifier qu'ils sont des gens bien. Après, Jésus va les critiquer sur un certain nombre de points, et sur des points très normaux. Parce que les pharisiens passent leur temps à devoir serrer les dents pour tellement d'obligations qu'ils sont quelque part obligés, de temps en temps, on va dire, de lâcher la bride et de s'offrir des petits plaisirs. Vous voyez ? C'est comme ça, hein ? Un peu des compensations. On en a besoin quand on est stressé. Hein ? Je dis souvent aux étudiants dans les périodes d'examen, au lieu de te ruer sur le chocolat parce que tu es tellement stressé, attribue-toi une pause avec du chocolat, comme ça le chocolat est une récompense. Tu en auras de la joie. Plutôt qu'en faire il faut, voyez ? Bon. Mais les pharisiens vont compenser d'une manière malheureusement assez courante, qui est le fait de profiter des plus faibles. On parle ici des veuves, dans le sermon sur la montagne, on parle des parents âgés. Lorsqu'on se sent coupable de ne pas en faire assez, on se rachète facilement dans d'autres domaines en montrant que là, on est vraiment, on a du pouvoir, si vous voulez. Je ne le dis pas à la légère, hein, je crois que c'est un danger vraiment réel. Si on n'est pas sûr d'être important pour Dieu, on risque vraiment de se montrer important en abusant de nos responsabilités envers les gens plus faibles que nous. Interrogez les enfants dans nos églises évangéliques, ils vous en raconteront malheureusement. Finalement, un dernier point qui est dénoncé par les pharisiens, c'est que les pharisiens sont persuadés qu'ils sont meilleurs que les autres. Et surtout qu'eux n'ont pas les travers des autres. Jésus le présente en montrant le contraste qu'il y a entre les gens qui ont tué les prophètes dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament qui sont morts dans leur lit. Ouais. Et puis il le compare avec la réalité de la persécution de Jésus et de ses disciples. C'est un des derniers discours de Jésus avant la croix. C'est de cela qu'il parle. Hein. Les pharisiens prétendent que eux, certainement, ils ne tueraient jamais les prophètes, alors qu'ils sont en train de préparer la mort de Jésus. Vous voyez ? Non seulement les pharisiens ne font pas ce qu'ils disent, mais en plus, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Ils font ce qu'ils reprochent aux autres. Les pharisiens reprochent généralement à tout le monde de ne pas écouter la Bible. Ouais. Et eux, ils vont tuer Jésus. Dans la Bible, il y a des avertissements quand même très sévères, du genre... Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, ou l'orgueil précède la chute, ou encore, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais un cœur brisé et contrit. Ou encore, ce que disait Augustin, l'évêque de Tunisie, hein, saint Augustin, il écrit cette prière, « Qui suis-je sans toi, sinon l'instrument de ma propre chute ?»« Qui suis-je sans toi, sinon l'instrument de ma propre chute ?» Si vous connaissez le mouvement des alcooliques anonymes, c'est leur premier point, ils ont repris ça. Le problème, c'est moi. Je vous avais raconté l'histoire de cette brave dame de mon église. Hein. Quand elle fait des efforts, c'est justement là qu'elle retombe dans l'alcool. Parce que nous sommes l'instrument de notre chute. Vous voyez ? Les pharisiens pensent justement que c'est en faisant plus d'efforts que ça ira mieux. Le problème, c'est quand on fait plus d'efforts, on va à la fois valoriser notre bon côté, mais aussi nos mauvais côtés. Oui, vous voyez ? Qui suis-je sans toi, sinon l'instrument de ma propre chute ? Lorsqu'on fait plus d'efforts, le péché en nous risque aussi d'être plus fort. Vous connaissez le proverbe français, hein ? Chassez le naturel, il revient au galop. C'est ça que ça veut dire. Voilà, des avertissements qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que le péché est vraiment puissant. C'est ça qu'on dit ici. Notre seul recours, c'est nous mettre dans les mains du Seigneur, quoi. Vous voyez ? Nous devons solidement être assis dans la grâce de Dieu parce que la culpabilité et la frustration nous poussent à chuter. Ce sont souvent les grandes causes de nos chutes, nos frustrations et notre sentiment de culpabilité. Quand on a l'impression qu'on n'est pas bien, on se rattrape ailleurs, voyez ? Isaac de Ninive, qui était un évêque d'Antioche, en Turquie cette fois-ci, on se balade dans le monde, hein. Celui qui connaît ses péchés est plus grand que celui qui peut ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Ce qui était le cas d'Isaac de Ninive d'ailleurs, hein. Il a ressuscité des gens d'entre les morts. Celui qui sait vraiment pleurer sur lui-même et le fait durant une heure est plus grand que celui qui enseigne le monde entier. Celui qui connaît sa propre faiblesse est plus grand que celui qui voit les anges. C'est fort, non ? Celui qui connaît ses péchés est plus grand que celui qui peut ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Je me rappelle de mes études à Emmaüs où à peu près un quart de mes collègues étaient des gens qui avaient passé par la drogue. Il y avait notamment un ami qui est pasteur près de Lyon maintenant. Il a vécu pendant 3 ans comme clodo sur un trottoir, dépendant de l'héroïne. Et vous savez sans doute que la drogue, ça laisse des traces assez méchantes dans la vie, quoi. Et face à ses collègues, j'ai tout de suite senti la tentation d'une, on va dire, d'une certaine condescendance, voyez ? Oh, les pauvres ! Oui ? Et le Seigneur m'a solidement repris en me montrant que finalement, j'avais exactement les mêmes pensées que celles qui les avaient conduits à se droguer. Des pensées comme se sentir victime, plutôt que responsable de sa vie. Avoir envie d'une solution rapide et sans douleur à mes problèmes. Avoir parfois des pensées sombres qui tournent en boucle. Avoir souvent une vision très irréaliste de ma propre vie. Ce sont ces pensées-là qui les ont menées à se droguer. Pas plus que ça. Pas moins que ça non plus. Elle dit, mais j'ai les mêmes pensées que ça. Pourquoi moi j'ai été préservé de ne pas finir dans la rue avec une seringue ? Je ne sais pas. Je peux seulement remercier le Seigneur. Je ne peux certainement pas prétendre que quelque part je suis mieux qu'eux, voyez ? J'aimerais terminer ce long commentaire sur ce long passage en revenant tout à la fin du passage que j'ai lu. Qu'est-ce que Jésus fait à la fin de cela ? Parce que vous savez, quand on parle des travers des pharisiens, le risque, c'est qu'on réagit comme des pharisiens. C'est « oui, je connais bien des gens qui sont comme ça ». Vous voyez le risque ? Ça, c'est le problème typique des pharisiens. Le problème est toujours chez les autres. Et voyez ici la réaction de Jésus à la fin. Il pleure et il prie pour les pharisiens. C'est ça qu'il fait. Il pleure et il prie pour les pharisiens. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de pleurer quand vous priez. Après, pleurer peut-être sur vous-même ou pleurer sur des autres. Jésus prie et se lamente sur le péché des autres et sur ces gens qui ne veulent pas en sortir. Vous voyez, il n'est pas là en tant que juge, alors qu'il pourrait, hein, Jésus, c'est quand même, voilà, c'est Jésus. Il n'est pas là pour les juger, mais pour prier pour eux. Ça, je trouve que c'est quand même assez décapant, non ? Les pharisiens jugent les gens alors qu'ils n'ont certainement de rien, aucune raison de se vanter d'eux-mêmes. Jésus, qui lui par contre a aucun problème pour dire « imitez-moi », il vient pour intercéder pour les autres. Je vous invite à prier.